Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bel été. Nous revoilà pour la saison 2 de Raconte ta parentalité. À chaque épisode, je recevrai un parent, un jeune ou un couple qui viendra se raconter et faire part de son histoire. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un couple. J'allais dire jeune. Non, je rigole. Ouais, si, ils sont jeunes.
Tu peux le dire.
Ils sont jeunes, mais ce n'est pas un jeune couple parce qu'ils se connaissent depuis longtemps et on va faire connaissance tout de suite. Salut, comment tu vas? Est-ce que tu veux bien te présenter?
Ben écoute, enchanté, je vais très bien, je m'appelle Alex, j'ai 47 ans. Voilà, est-ce que tu veux savoir d'autres choses?
Ouais, j'aimerais bien savoir par exemple si tu as des frères et sœurs, si tu as des enfants, si tu n'en as pas, si tu es en couple. Vous êtes venus à deux, mais vous n'êtes pas obligé d'être en couple.
Absolument. Alors effectivement, je suis en couple avec la personne qui est à mes côtés. On est mariés depuis maintenant plus de 2 ans, mais on est ensemble depuis plus de 10 ans. Je viens de Fresnes dans le 94. J'ai pas de frère ni de sœur, donc je suis fils unique. Et voilà, je travaille dans la communication. J'aime le sport, j'aime la musique. Voilà.
Trop bien, merci Alex. Mais qui est cette chère demoiselle ?
Donc, je suis Emmanuelle, la femme d'Alexandre depuis 2 ans. Donc, on s'est rencontrés il y a 10 ans sur les planches, puisqu'on s'est rencontrés, on faisait de l'improvisation à l'époque.
On en fait toujours.
Et on en fait toujours. Et voilà, moi j'ai un frère de 3 ans plus jeune que moi. Je suis parisienne je travaille dans la communication également. Et j'ai 46 ans et pas d'enfant.
D'accord.
Et voilà, et pas d'enfant parce que j'attendais de rencontrer l'homme de ma vie que j'ai trouvé. Et voilà, et donc du coup aujourd'hui, on a essayé, mais on n'y est pas pour l'instant totalement arrivé. On ne s'est pas désespéré, mais voilà.
Pas du tout, voilà. Même on peut dire, totalement, on n'a pas un embryon quelque part, non, pas d'enfant.
D'accord, donc on va pouvoir échanger sur tout ça. Mais avant, on aimerait savoir qui vous étiez petit, comment vous avez grandi, dans quel milieu. Parlez-nous un peu de votre histoire d'enfance. On commence par toi, Emmanuel.
Ok, alors moi j'ai grandi à Paris. J'ai toujours connu Paris jusqu'à ce que je rencontre Alexandre, jusqu'à un certain âge, jusqu'à quoi, 37 ans. On s'est rencontré, j'avais 37 ans, j'étais pratiquement jamais sortie de Paris. C'était vraiment le stéréotype de la parisienne. Alors j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu au Japon, j'ai beaucoup voyagé. Mais voilà, et voilà.
Donc, est-ce que tu te souviens de toi, enfant, toute petite? Est-ce que tu étais une enfant plutôt sage, enfant turbulente?
Ouais, sage. Contexte parental un peu compliqué. Mais
tu vivais avec tes deux parents?
Ouais, avec mes deux parents.
D'accord.
Et donc sage, bon élève, toujours vouloir avoir des bonnes notes. Après, un peu plus tard... dès que j'ai pu, j'ai pris mon envol vers 20 ans. Ouais, 20 ans. Mes parents se sont séparés et donc du coup, j'ai pris mon envol et je suis partie aux États-Unis et là, ma vie a commencé. Je peux dire que j'ai commencé ma vie à 20 ans.
À 20 ans. Voilà. Ça veut dire que de l'enfance jusqu'à tes 20 ans à peu près, tu as vécu avec tes deux parents en couple, ouais. Et ils se sont séparés à ta 20e année?
Ouais, parce qu'en fait, ils attendaient que mon frère ait son bac. Truc ouais. Débile, tu vois.
Non, mais pas tant que ça. Ouais, on ne veut pas perturber les choses.
Ouais, mais bon, des fois... Ouais,
des fois, mieux, en fait, on perturbe mieux, plus qu'autre chose.
Plus qu'autre chose, c'est un peu chaud. Donc, du coup, la vie... Donc, en fait, j'ai 26 ans. Parce que j'ai commencé
à 20 ans. Ouais.
Ouais.
C'est pratique.
Ouais, t'as 26 ans.
Bah
mais
ouais, je suis fraîche. Ouais.
T'es plus jeune que moi. Je commence à être énervée là. Et du coup, enfant, tu te sentais plus proche de ta mère ou de ton père?
De ma mère.
Ouais, ouais, de ta mère.
Ouais.
C'était quoi votre lien?
En fait, comment dire, j'étais un peu la mère de ma mère, quoi.
Ok.
Voilà. Mais bon, très fusionnel. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment la personne qui compte. Vraiment,
le plus.
Le plus, voilà. avec mon mari, évidemment. Mais voilà, c'est toujours ce côté où je vais toujours m'inquiéter pour elle, etc.
Tu avais un peu le rôle d'enfant adulte,
un peu,
avec des responsabilités. Et du coup, comment toi, ça s'est passé, ton enfance de ton côté? Comment tu as grandi? Dans quel cadre? Est-ce que tu as vécu avec tes deux parents ou pas? Tu nous racontes un peu, Alex?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai grandi, donc je suis né à Paris, mais j'ai grandi, j'ai toujours vécu à Fresnes. Donc mes parents en fait se sont rencontrés assez jeunes. Ma mère est parisienne comme ma femme, c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais quitté Paris, et que quand elle a rencontré mon père qui lui est de province, ils sont installés à Fresnes, et pour ma mère c'était assez horrible. C'était un déracinement assez difficile, donc elle a eu du mal à s'adapter. Puis au final, à la fin, elle voulait plus partir. Donc moi, oui, je suis arrivé dans ce contexte-là. Fils unique, avec mes deux parents. Je dirais une enfance heureuse.
Oui.
De fils unique. Même si ma mère a rapidement eu des soucis de dépression, d'alcool même, on peut le dire. Donc ça a été un peu comme Emmanuel, finalement, un rôle un peu rapidement d'enfant-parent,
en fait. Oui.
Voilà. À plus m'inquiéter pour elle. Ça m'empêchait pas d'avoir ma vie à côté et d'être heureux et de profiter de mes potes et tout ça. Mais c'est vrai qu'à la maison, il y avait un lien assez fusionnel avec ma mère, mais difficile parce que je devais m'occuper d'elle. Et puis, voilà, l'alcool,
c'est un fléau.
C'est un poison et ça détruit des choses. Et un peu comme Emmanuel, mes parents, je pense que mon père est resté beaucoup pour s'occuper de ma mère et pour s'occuper de moi aussi. Donc, voilà.
Et du coup, ton lien avec ton père?
Mon lien avec mon père...
Dans l'enfance, dans un premier temps?
Normal, on va dire. Jamais trop de communication. On partageait des choses comme le sport. Il m'emmenait au sport. On allait au match ensemble. Il m'emmenait au parc voir le PSG depuis que j'étais gamin. Donc, en fait, cette complicité-là, mais pas de complicité sur le plan plus intime, on va dire.
Et du coup, quand on a un parent qui peut être addict, là c'est l'alcool, mais ça peut être plein d'autres choses.
Ouais,
la drogue, le sexe, il y a plein de sujets. Est-ce que on en parle avec ses parents ou pas? Est-ce que t'as l'impression que le dialogue a été ouvert, ou est-ce qu'on grandit avec, on le voit? D'ailleurs, est-ce qu'on le comprend?
C'est une très très bonne question. Moi, je m'en rappelle, j'ai des flashs en fait, si tu veux. Quand j'avais 7 ans, j'ai trouvé une bouteille de whisky dans mon armoire. Donc je me demandais ce qu'elle faisait là, mais je me suis dit, ma mère en rangeant, a oublié. Donc au début, en fait, tu vois qu'il y a des fois des comportements un petit peu différents, mais non, tu comprends pas. Et effectivement, tu n'en parles du coup avec personne. Et même quand toi, tu prends conscience de ça, c'est-à-dire, je te parle de ça à 7 ans, j'ai commencé à en parler avec mon père, je devais avoir 18 ans.
Ouais, c'est ça.
Chacun, on essaie de gérer le problème de notre côté, à notre manière, et on en a parlé, à 18 ans, parce que mon père, je pense qu'il voulait me protéger, il pensait que je voyais pas. Moi, je m'étais construit là-dedans, donc j'avais pas forcément le réflexe de lui en parler. Donc, chacun gérait ça de son côté, quoi.
Et émotionnellement parlant, est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on s'en veut? Est-ce qu'on se questionne en se demandant si c'est de notre faute, s'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous ou pas? Parce qu'on a reçu sur le plateau aussi une invitée qui avait un père qui était alcoolique, du coup, et elle disait pendant longtemps, moi j'ai l'impression qu'il ne nous aimait pas, en fait. Pourquoi tu ne te sors pas de là si tu nous aimes? Est-ce que c'est aussi le cas pour toi ou pas du tout? Parce que c'est pas...
J'ai jamais eu de doute sur le fait que ma mère m'aime. Parce que elle me l'a prouvé, et voilà, j'ai fait la part des choses. Après, tu te dis pourquoi elle ne trouve pas la force pour moi ou pour sa famille de s'en sortir. Et ça, il y a des fois où tu ne comprends pas, parce que quand tu n'es pas dans l'addiction, tu as le point de vue de quelqu'un qui n'est pas addict. Donc, tu te dis c'est faisable, mais en fait, avec l'âge, en mûrissant, je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. et que voilà, c'était quelque chose qui a fini par la tuer, hein, puisque elle est décédée en 2013.
Une paix à son âme.
Voilà, donc elle avait 60 ans, donc tu vois, c'est quand même assez jeune. Donc voilà, les ravages que ça fait, sans te parler de voilà, 15 ans en arrière, elle était déjà plus vraiment ce qu'elle était, parce que alcool, médicaments, machin, voilà, un cocktail. Mais en fait, moi, j'ai jamais culpabilisé, je me suis inquiété, je me suis senti à devoir la protéger, m'en occuper, mais je me suis jamais senti coupable de son alcoolisme.
Ouais, déjà, c'est déjà, enfin, on voit une force de caractère, un trait de caractère aussi peut-être intrinsèque à toi, mais tant mieux. Emmanuel, tu nous disais aussi que bah, du coup, tu as été un peu ce parent-enfant. Est-ce que tu es d'accord de témoigner un petit peu sur, est-ce que, au moins sur le fait, plus sur, est-ce qu'il y avait un sas de communication? Est-ce que tu as pu mettre en mots ce que tu vivais? Ou est-ce que, comme Alex, bah, c'est un truc on fait avec, on avance, mais on ne met pas en mots?
Comment dire?
C'est dur, hein,
parce que... c'est dur, parce que c'est des... Voilà, c'est...
De toute façon, c'est profond, c'est intime. Ouais.
Moi, c'était plutôt un problème avec mon père, qui est un personnage un peu particulier, qui est très spécial, on va dire. Voilà, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais qui nous a pas mis, qui m'a, je me suis très vite sentie en insécurité, d'accord, très très jeune. Ouais. Donc d'où le besoin de m'occuper ou de me dire, ah là là, je suis dans un état un peu psychologique, de me dire il faut que je sauve, faut que je me sauve et il faut que je sauve les gens que j'aime, en fait. Donc je me suis un peu bâtie là-dessus. Et tout ça, on se rend pas compte, en fait, jusqu'à, je sais pas, moi j'ai commencé à avoir un psy, ça devait être en 2013. En fait, on s'est rencontrés, on a plein de trucs en commun et c'est ça aussi qui nous a fait qu'on s'est...
Il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie.
Non, mais carrément. Et en 2013, j'ai totalement pété un câble, donc j'ai commencé à avoir un psy. Et c'est là que j'ai commencé à ouvrir les portes et tout. Et ça prend du temps. Parce que là, j'y suis encore. J'ai fait une pause quand on s'est rencontrés. Bon, ça allait un peu mieux. Puis là, j'ai repris suite à tout notre parcours pour avoir un enfant. Parce qu'on met du temps.
Ça chamboule.
Voilà. Et là, je travaille sur des trucs. Mais j'ai 46 ans. Et c'est à 46 ans que ça y est, je me dis, je sais ce qu'il faut faire. Et je n'arrive toujours pas à accéder à ce qu'il faut arriver à faire pour justement arrêter d'être dans cet état de « voilà, il faut que je m'occupe des uns, il faut que je m'occupe de... » En fait, je m'occupe de tout le monde pour ne pas m'occuper de moi aussi, beaucoup. Donc, il y a tout ça qui... Voilà, plus... c'est compliqué. Enfin, voilà, c'est le problème aussi dans mon enfance, c'était un peu la violence, tout ce qui était violence. Donc... j'ai fait toujours en sorte, et je le vois aussi dans mon travail aujourd'hui ou dans ma vie, de concilier, de manipuler les choses autour de moi pour arriver à mes fins, mais tout sans rentrer dans le conflit, en fait.
Ouais, exactement, d'éviter le conflit pour que les choses se passent dans la douceur.
Voilà, et éviter au max la violence. Quand je vois des scènes de violence, moi, ça me...
Ça t'irrite.
Ouais, complètement, je suis pas bien.
Ouais, ouais. Et merci pour ce témoignage à tous les deux, parce que je pense que c'est important et que même les personnes qui nous écoutent, et j'espère qu'elles seront nombreuses, de savoir que quelle que soit la difficulté qu'on peut traverser, on a tous, comme on dit, les maux de l'enfance. Hein. Nous, en tant qu'adultes, parents, quand on l'est, on essaye de bien faire, on pense bien gérer les choses, mais ça se fait pas sans heurts. Et même dans les enfances les plus heureuses, joyeuses, et ben à l'âge adulte, on revient en arrière en disant hey, « mais tiens, maman, ou tiens, papa, c'est de ta faute, ça, en fait. » Donc, c'est naturel de ressentir ça. Et en même temps, tu mets aussi le doigt sur quelque chose d'important, c'est de trouver le moment au bon moment, d'en parler avec un professionnel, de pouvoir, de pouvoir essayer de creuser pour avancer, tout simplement.
Alors, la chose, c'est que moi, je ne peux pas en parler avec mes parents parce que ma mère, elle comprendrait pas. Elle est tellement, tout ça, en fait, c'est des héritages, tu vois, transgénérationnels. Et ça, je m'en rends compte aujourd'hui. Je me dis, mais c'est quoi le problème? Pourquoi, en fait, tout pouvait aller super bien? Et au final, je vois, moi, mes deux côtés de ma famille, c'était des immigrés qui sont arrivés en France, qui ont galéré, qui se sont vraiment assimilés, etc. Enfin, voilà, qui ont appris le français, qui ont vécu la guerre, etc., qui ont été beaucoup dans la culpabilité. Et j'ai ces sensations-là, aujourd'hui, d'être un peu à le bout de la chaîne et d'en être arrivée là parce que, j'ai récupéré toute cette culpabilité de ma grand-mère, de ma mère, Et j'ai vécu que là-dedans. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est... alors, je ne sais pas si tu ressens aussi la même chose, mais qu'on est un peu le dernier chaînon du truc. Et que, comme on n'a pas d'enfant, eh ben, ça va peut-être s'arrêter là, tu vois. Mais en même temps, je me dis, ben, en même temps, tant mieux de ne pas transmettre ces horreurs, finalement, à quelqu'un. Alors, c'est un peu psychologique ou un peu, tu vois... c'est une analyse, en fait, que je me fais après toutes ces années, finalement, d'introspection, où j'essaye de comprendre un peu où j'en suis, qui je suis, etc. Et moi, je ne peux pas en parler à mes parents de ça, parce que mon père, bon, bah, il ne comprendrait pas. Et ma mère, je ne vais pas l'embêter avec ça, parce qu'elle a eu sa life et c'était suffisamment compliqué comme ça. Donc, ma seule solution, bah, c'est soit d'en parler à mon mari, mais bon, ce n'est pas mon psy, ça, c'est important aussi. Ou à un psy, et là, il faut trouver le bon praticien, par contre.
Celui avec qui il y a le feeling, celui qui va nous apporter. Et puis, il y a le fait de parler, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est « Ok, j'en parle, ou je commence à mettre le doigt dessus, mais la clé, sinon, tu vois, pour laisser le monstre sortir, celle-là, c'est passer à l'action, c'est beaucoup plus difficile, ça met du temps. Mais on y arrive, et c'est tout ce que je te souhaite, d'ailleurs, d'y arriver. Donc là, on a brassé un petit peu l'enfance, l'adolescence. Comment vous étiez dans l'adolescence? Est-ce que vous étiez du coup des ados plutôt tranquilles, qui respectent le cadre? Ou est-ce que c'est le moment où on a essayé des petits trucs? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous à l'adolescence?
Non, moi je dirais que j'étais assez tranquille. Bon, comme tout le monde au début, j'étais dans une bande de potes... qui eux ont franchi certaines limites. Moi, j'étais là, je regardais, mais j'étais pas vraiment à l'aise. Donc rapidement, j'ai changé plus ou moins
de fréquentation,
on va dire. Et du coup, non, moi, j'étais avec ma bande de potes sans faire trop de conneries. Enfin, voilà, non, ça a été tranquille. J'ai jamais fait de garde à vue. Voilà,
C'est censé être la norme.
Oui, bah voilà, c'est pour ça que je le précise. Okay, ouais. Mais bon, j'ai eu les menottes une fois, mais bon, je garderai pour un autre podcast.
J'allais dire, attends, tu as eu les menottes, tu me racontes.
Oui, on s'est fait, en fait, voilà, comme de. On a croisé la BAC un jour, et puis bah, ils nous ont rattrapés, ils nous ont sorti des voitures, nous ont mis sur les capots, les menottes. Puis au bout d'un moment, ils nous ont libérés, et moi je leur ai demandé, bah, on peut savoir au moins pourquoi. Et on était apparemment stationnés à côté d'une voiture qui ressemblait à une voiture qu'on leur avait
signée. Ah ouais, ok. Enfin, voilà.
Bon, une petite anecdote sympathique, mais pour
la première fois. Mais du coup, tu sais quelle sensation ça fait.
Je sais quelle sensation ça fait, et voilà. Donc moi, non, une adolescence sympa avec une vie sociale riche. Donc, qui compensait largement en fait les
difficultés à la maison.
Les difficultés que je peux avoir chez moi.
Et toi?
Bah, moi, c'était plus compliqué parce qu'en fait, j'avais pas forcément le droit de sortir. J'avais pas. C'était très strict à la maison. Fallait des bonnes notes, etc. Donc, l'adolescence, compliquée, hein, j'avoue. J'ai souvenir de moi assise dans ma chambre en train de regarder par la fenêtre et me dire, bon, bah, à 30 ans, je vais mourir. C'est quoi ma life? Qu'est-ce qui va se passer? C'est horrible. Puis, c'était très rythmé. On voyait beaucoup la famille. En plus, j'avais des grands-parents qui étaient malades, qui sont des grands-pères qui sont décédés, la suite des uns des autres. Enfin, les week-ends étaient lourds. Tout était lourd, quoi. Bref, et au final, donc l'adolescence, pas ouf, j'avoue. Pas génial. Mais quand même, j'avais quelques petits sas au collège et lycée. J'ai commencé à faire mes premières rencontres. Je me rappelle qu'en cachette, j'allais sur la dalle à Montparnasse avec mes potes, faire des trucs. C'était pas des dingueries, mais pour moi, c'était une liberté de malade, quoi. Fumer mes premières cigarettes, des trucs comme ça. Bon, après, j'ai pas fait de plus à ce moment-là, mais déjà, ça, c'était ces petits sas de liberté. Et voilà, ma vraie vie, mon adolescence, elle a commencé à 20 ans. Moi, à 37 ans, j'étais en boîte de nuit tous les jours jusqu'à 6 heures. J'ai
rattrapé,
tout rattrapé.
C'est intéressant, tu as évoqué justement les décès qu'on peut vivre dans l'enfance, qu'on subit aussi.
Ouais.
Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu sur le deuil à l'enfance? Comment on reçoit ça? Comment on le vit? Est-ce que tu as des souvenirs est-ce que tu te sens accompagnée dans ce deuil, ou est-ce que, comme beaucoup d'enfants, on le subit, on nous annonce et puis ensuite on traîne et puis ensuite on vit ces longs moments familiaux difficiles où on voit les gens pleurer, on comprend pas trop, mais on est traîné, ou est-ce qu'on t'explique, est-ce qu'on t'accompagne dans le deuil? Comment tu vis le truc, toi?
Alors, pareil, c'est toujours un peu particulier. Dans mon rôle de sauveuse de l'humanité, qu'on m'a mise dans la tête, finalement, très tôt, j'ai mon premier grand-père maternel, je devais avoir, je sais pas, les 12 ans. Bon, j'étais pas toute petite, mais j'avais 12 ans, il avait Alzheimer, donc il s'est dégradé petit à petit, etc. Et mon oncle avait un hôpital, et ils n'ont rien trouvé de mieux que de m'envoyer pendant 2 semaines dans l'hôpital chez mon oncle pour m'occuper de mon grand-père, à 12 ans.
À 12 ans, ouais.
Donc j'ai passé ma vie dans les couloirs, avec les odeurs et tout. Aujourd'hui, ouais. Je suis totalement... tu me mets dans un hôpital, je suis mal, quoi, ça me mal. Et donc, je l'ai vu partir, etc. Mais bon, donc j'ai vu mes parents tristes. Après, perdre un grand-parent... Voilà, c'est un peu dans l'ordre des choses. Le premier. Le deuxième est parti, donc mon grand-père paternel est parti un peu quelques années après d'un cancer. Donc pareil, donc là j'ai été moins dedans, mais c'est une personne qui était assez enfermée. Ça se passait bien avec moi, mais aujourd'hui je comprends que ça devait pas forcément bien se passer avec tout le monde et tout. Donc bon, il y a ce côté un peu... Donc il est parti, donc ma grand-mère restée seule. Et ensuite, j'y suis restée beaucoup avec ma grand-mère, et qui m'a aussi beaucoup... finalement éduquée, qui s'est beaucoup occupée de moi. Et c'était une personne qui comptait énormément pour moi, ma grand-mère paternelle. Et ensuite, mes parents ont divorcé. Je suis partie aux États-Unis un peu par fuite aussi, parce que c'était le moment où il fallait que je survive aussi. Donc j'ai pensé à moi, je suis partie aux États-Unis. Et ma grand-mère est décédée pendant que j'étais aux États-Unis. Et donc je n'ai pas pu faire son deuil, parce que pour moi, c'était inconcevable qu'elle meure. En plus, j'avais eu la sensation de l'avoir abandonnée, parce que j'étais avec elle tout le temps. Enfin, c'était... presque pas normal comme relation, quoi. C'était vraiment, je devais m'occuper d'elle et tout. Et ce qui est fou, c'est que les adultes, quand ils voient ça, ils vont pas te dire non, je suis l'adulte, toi t'es l'enfant, ouais. Reste à ta place. C'est ça, peut-être, si j'ai un truc à dire aujourd'hui où je me rends compte, c'est qu'en fait, personne, même ma mère, je me dis, mais des fois, remets-moi à ma place d'enfant, en fait. C'est pas à moi, mais non. Mais en fait, ils se mettent dans ce confort-là, et se dire, parce qu'ils sont aussi désespérés, et que voilà. Donc bref, donc ma grand-mère décède, et j'ai mis peut-être... 10 ans à faire le deuil de ma grand-mère. J'ai pas pu retourner à l'endroit dans la maison familiale, qui est aujourd'hui la maison qu'occupe mon père et que mon père donc a repris en l'état. Et surtout, il n'a rien changé depuis le jour du décès de ma grand-mère. Donc
c'est-à-dire, c'est comme si
elle est morte en 99 et il y a encore le calendrier.
Il y a l'almanach PTT.
Il y a le tablier de ma grand-mère. Tout est au même endroit.
Donc pour toi, c'est impossible.
Glauque, au possible. Ouais. Donc je me suis fait violence quand on s'est rencontrés, parce que je me suis dit, ça y est, il faut passer à autre chose, etc. Donc j'y suis allée plusieurs fois. Et là, après quelques années, je me dis, ce que je retiens aussi de toute ma thérapie, entre guillemets, c'est de ne pas se forcer à faire les choses. Ouais. Et de dire, j'ai pas envie, je ne le fais pas. Je ne le fais pas pour faire plaisir, je ne le fais pas parce que je me sens coupable. Donc ça, c'est vraiment des notions...
qui arrivent avec l'âge.
Ouais. Et ça, on ne se rend pas compte quand on est plus jeune. On se dit, et surtout quand on a été élevé dans cette culpabilité, à la fois, ça peut être des facteurs religieux ou, par exemple, de côté de mon père, ma famille, c'était des Polonais catholiques très pratiquants. Donc on était vraiment élevés dans la religion catholique, que j'ai complètement rejetée après, mais j'étais baptisée, on m'a pas demandé mon avis, tout ça, bref. Mais en tout cas, ça m'a apporté une culture très importante. J'ai pu vraiment faire la part des choses et aussi prendre toute cette culpabilité des chrétiens, là, où il faut toujours être coupable de tout, et ça, j'essaie vraiment de m'en débarrasser aujourd'hui.
C'est ce qui explique peut-être que tu es coupée, justement, avec... Merci pour ce témoignage, parce que finalement, on parle souvent d'accompagner dans le deuil, mais ça, tout ce qui s'applique aux enfants s'applique à nous. De toute façon, on est tous les enfants de quelqu'un. Et souvent, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas faire. On ne nous a pas éduqués à le faire. On ne nous accompagne pas à le faire. Je te remercie pour ça, parce que j'espère aussi que chez les auditeurs, peut-être qu'il y a des petites prises de conscience en disant, mais comment on accompagne? Comment des fois aussi on rassure l'enfant ou son frère, sa sœur, peu importe, son neveu, sa nièce, en lui disant, mais là, c'est à nous, de vivre les choses, de prendre les responsabilités. Et toi, comment je t'offre un petit sas aussi pour que tu puisses respirer et accueillir ce moment?
J'ai juste un dernier souvenir aussi, c'est les parents qui nous écoutent. Moi, je sais que quand mon grand-père est décédé, paternel, donc côté catho, mes parents m'ont obligée à voir le corps. En me disant, c'est important, il faut que tu le vois. Et en fait, j'ai vu et j'aurais... adoré garder une image de mon grand-père normale, en fait. Et là, il avait pas ses dents, je ne repasse les détails. Et de voir la mort, c'est la première fois que je voyais quelqu'un décédé. Et je ne voulais pas, en fait. On ne m'a pas demandé mon avis. On m'a dit, vas-y. Et ça m'a glacée. Du coup, à tel point, je ne pouvais plus dormir dans la chambre où il était donc exposé. Et j'étais jeune, hein, je sais plus, j'avais 14 ans peut-être. Enfin, je n'étais pas si jeune que ça, mais non.
Si, quand même, voilà. 14.
Ouais, 14, ce n'est pas génial. Et pareil, et pour le reste, c'est pour ça que ma grand-mère, quand j'étais loin, et j'étais, alors c'était horrible parce que je culpabilisais, ouais. Mais j'étais loin. Mais du coup, bon, après, j'ai pas
au
fait
moins, tu t'es dit,
tout.
On ne va pas me...
Je ne l'ai pas vu, ouais. Et j'ai gardé l'image que j'avais envie de... C'est pour ça, il ne faut pas forcer. Il faut demander peut-être l'avis de l'enfant, même s'il est petit. Je pense que c'est des choses qui... Alors certes, ça aide peut-être à faire le deuil, mais pas forcément, parce que ça peut faire des cauchemars, ça peut laisser des images où, en fait... voilà, surtout quand il y a eu de la maladie et tout, on n'a pas envie de voir, garder l'image image. Dégradée, quoi. Voilà, c'est peut-être un petit témoignage.
Merci pour ça. L'accompagnement au deuil, toi, Alex, est-ce que...
Alors moi, effectivement, ça s'est produit, j'avais 35 ans. Donc en fait, j'ai appris, je me rappelle encore, ma mère m'a appelé un jour, j'étais sur un salon professionnel et elle m'a dit « j'ai un cancer ». Donc bon, voilà, on prend l'info. Et puis, un mois après, elle était morte. Donc elle est morte le 25 décembre 2013. Donc c'était assez particulier parce qu'en fait le 24 on était avec mon père dans la chambre, elle était sous morphine, complètement shootée, et à un moment elle a demandé à mon père « Ouais, tu crois que je vais mourir ?» Et en fait cette semaine-là, je me rappelle, oui, quelques jours avant, mon père m'avait appelé en me disant « Bon bah ta mère passera pas la semaine ». Et en fait, j'avais raccroché, puis j'avais fait ma vie. J'étais dans une espèce je calculais pas. Donc, elle est morte. Le 25, le jour de Noël, je serre ma mère froide dans mes bras. Enfin, vraiment un truc horrible, en fait, quand on y réfléchit. Et que moi, je vivais un peu comme si j'étais pas...
Un peu avec détachement.
Ouais, totalement clivé, en fait. Mmh. C'est-à-dire que j'ai pas pleuré, je me suis pas effondré. Ça arrive le 25 décembre, le 2 janvier, j'étais au boulot. Enfin, voilà. Et après, j'ai continué comme ça, si tu veux. Donc, j'ai pas fait de deuil, au final. Et je l'ai payé plus tard. C'est-à-dire qu'au fil des années, je dirais que ça s'est un peu... Il y avait des choses qui n'étaient pas réglées, que tu crois avoir... parce que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Dès qu'il y avait un problème, j'arrivais à passer à autre chose, à me cliver. Mais à bout d'un moment, quand un truc est trop fort, cette tactique-là, elle ne marche plus. Mais enfin, je ne le faisais pas consciemment, mais au final, voilà.
C'est une façon de se protéger
aussi. C'est une façon de se protéger. Et pareil, c'est le fait de voir quelqu'un, de pouvoir faire une thérapie, que tu puisses comprendre en fait certaines choses. Qui font qu'au bout d'un moment, intellectuellement, tu as compris que ton réflexe était de te cliver de tes émotions, justement, parce que tu ne veux pas souffrir. Et que moi, ça a toujours été comme ça. Dès qu'il y avait, j'aime pas la tristesse, tout ce qui est autour des trucs tristes, les films tristes, j'aime pas voir les films tristes. Enfin, voilà, donc j'évite. Et c'est une émotion que tu peux pas fuir au final. Donc à un moment,
elle
te rattrapera toujours. Et c'est toujours de se dire, si je paye pas tout de suite, je paierai plus tard. Donc je prends à crédit au final. Exactement. Et je paierai encore plus cher. Plus j'attends pour vivre mon émotion, plus je vais la vivre pas bien. Donc tu vois, le deuil, en fait, j'ai pas eu vraiment d'accompagnement parce que. Avec mon père, c'est pareil, c'est pas quelqu'un de très...
Démonstratif.
C'est daron à l'ancienne, tu vois. Donc oui, ça parle pas. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, faut faire avec. En 3 jours, il avait vidé l'appartement de toutes ses affaires. Enfin, il était lui, vraiment passé à autre chose, tu vois. Ah oui, c'est le contraire de chez Emmanuel. Moi, ma mère, je dirais pas que c'est pas comme si elle avait jamais existé, mais... mon père en a chié aussi, même si c'est pas, il y a pas un gentil, un méchant, mais je veux dire, sa manière de s'en sortir à lui, je pense, c'est de passer à autre chose et Donc moi, par conséquent aussi, parce que quand tu sens que quelqu'un est pas ouvert en fait à parler de quelque chose, tu peux pas aller le forcer, et ce qu'il va te donner, ça va pas te satisfaire, tu vois. Donc on me dit souvent, pourquoi tu parles pas de ta mère avec ton père, parce que j'ai pas le sentiment qu'il ait vraiment envie d'en parler, et quand on le fait, c'est vite fait. Donc j'ai géré ça en fait tout seul, et après avec Emmanuel, qui n'a en fait malheureusement pas connu ma mère, mais qui, en fait, on a, voilà, on a vachement de points communs. Moi, ma mère, elle est d'origine algérienne par son père. Emmanuel, c'est par sa mère. On a pas mal de traditions familiales, enfin, plein de choses qui nous rattachent, et ce qui fait qu'Emmanuel me rappelle
aussi un peu ta mère,
un peu ma mère, voilà, sur parce que ma mère avait un frère pareil, 3 ans plus jeune, des rapports exactement pareils. Enfin,
elle est bélier.
Voilà. Oui, voilà. Il y a plein de similitudes.
Mais c'est pas des hasards, c'est des rendez-vous.
Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. On se rencontre pas par hasard, même si moi je crois un peu au hasard. Des fois, je me dis quand même, il y a des trucs. Bizarre,
ouais, surprenant.
Ouais, assez surprenant.
C'est marrant parce que il y a plein de choses que tu as évoquées avec légèreté, mais tu les as posées. Quand on sent que son parent n'a pas envie d'ouvrir la conversation, on n'arrête pas de nous dire, ouais, la communication, mais parle-en, ça va te faire du bien, etc. Et des fois, le ressenti que j'ai, c'est que l'autre n'a pas envie d'en parler, donc du coup, je me tais. Mais Emmanuel a dit quelque chose précédemment sur de quoi j'ai besoin de moi. Ouais. De quoi j'ai besoin de moi pour aller mieux, pour avancer. Et moi, j'ai besoin de parler. J'ai besoin de te parler. Donc, je ne peux pas te forcer à me parler. Par contre, je peux parler. Tu m'écoutes ou tu ne m'écoutes pas, mais je peux poser le sujet. Et ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Donc, en plus, comme tu disais, les parents... alors, moi, j'ai 40 ans. Je suis un peu plus jeune, mais nos parents, ils incarnent quelque chose. C'est compliqué. C'est-à-dire même d'avoir le courage de prendre ta chaise, de te mettre en face. Tu peux sortir de chez toi en te disant... Hey, aujourd'hui, il n'y a pas moyen, je vais le dire. Et tu arrives, et quand tu te mets sur ta chaise, on te disait, hey, tu redeviens un enfant de 4 ans, tu vois.
Ouais, et puis
tu
n'as plus les arguments que tu avais 10 minutes avant, tu disais, t'es super chaud, je veux dire ça, ça, ça.
Là, et juste, ils te regardent.
Ouais, t'as plus rien,
et tu dis, non, rien.
Et puis, plus ils vieillissent, plus c'est compliqué, en fait. Au bout d'un moment, tu n'as plus envie de les.
Mais en fait, de l'autre côté, en tant que parent, c'est vrai que je pense que ce qui est important, c'est d'ouvrir des portes, c'est-à-dire en termes de communication. Je sais que là, c'est un bon côté, moi, de mes parents. Enfin, ma mère m'a toujours dit, c'était de parler, de quoi qu'il arrive. T'as un problème, la découverte de la sexualité, tout ça. Bon, même si j'en ai pas, au final, parlé, mais moi, je savais que je pouvais, tu vois. Et même des trucs, je sais pas, moi, quand j'étais 12 ans, quand j'avais 11, 12 ans, je sais plus, j'étais tombé sur une bande de mecs qui m'avaient dépouillé. C'était l'époque de la dépouille.
Ouais,
bon, c'était pas violent, tu vois, parce que bon, j'étais tout seul, ils étaient 5, j'avais 30 balles sur moi, j'aurais donné les 30 balles.
Comme mais... ça se passe bien, en douceur.
C'est tout. Mais après, tu vois, je l'ai raconté à ma mère. Et ma mère, elle voulait aller chercher les gars. Et donc, à un moment, on était en voiture, on passe, elle les voit, elle me dit c'est eux. J'ai dit non, c'est pas eux et tout.
C'était eux.
Mais c'était eux, oui. Mais parce que voilà, je voulais pas qu'il se passe de trucs, mais tu vois, c'était dans la volonté de la protéger.
Ouais.
Mais en tout cas, j'avais pas de problème à communiquer sur n'importe quoi. Donc je pense qu'en fait, en tant que parent, c'est important pour que l'enfant, justement, il se sente pas seul face à un problème, comme moi. Toi, ça a été plus ton cas, ou moi face à l'alcoolisme de ma mère, parce qu'il y avait mes grands-parents, c'est-à-dire les parents de ma mère, ils le voyaient très bien. Mais mon grand-père, donc, il était algérien, quelqu'un de très fier, très. Donc, on parlait pas de ces sujets-là, et voilà. Et elle n'est pas alcoolique, et c'est des conneries, tout ça. Donc, quand tu es dans ce climat-là, tu gardes les trucs pour toi en tant qu'enfant. Et je pense que ce qui nous lie aussi avec Emmanuel, c'est d'avoir dû être assez mûr assez tôt, et de. Je dirais de mettre nos émotions à nous au second plan pour protéger un parent, en l'occurrence nos mères, de difficultés ou de douleurs.
Et est-ce que vous ne pensez pas que des fois, nos ressentis sont faussés? C'est-à-dire que des fois, la façon dont on a grandi, dont on s'est construit, dont on réfléchit, peut nous laisser penser que l'autre n'est pas ouvert au dialogue. Et du coup, on a des barrières, en fait, on a des pensées limitantes. Et peut-être que, en fin de compte, quand tu lui en parleras, si un jour tu lui en parles, peut-être qu'il sera même soulagé, et peut-être qu'il l'attendait et qu'il ne sait même pas lui-même comment mettre le truc sur la table. On ne sait pas. On ne sait pas ce que l'avenir vous réserve. Mais
pour te répondre, c'est arrivé encore une fois où j'ai craqué, en fait. Je pense qu'il y avait un moment d'émotion où j'ai réussi à pleurer, ce qui est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Et il était là, et donc on a un peu parlé. Il m'a dit, ouais, mais pourquoi tu me parles pas, machin. Donc exactement ce que tu dis, tu vois, une posture d'ouverture. Mais il faut qu'il me voie dans un état comme ça pour, tu vois, Parce que si je tends des perches dimanche midi et tout, et que ouais, je suis pas en train de chialer et qu'il me voit pas mal, bah non, on va rester sur le PSG. Quoi.
Sur le PSG, ouais, c'est cool. Merci pour ça à tous les deux. On va faire un bond en avant, mais juste avant, est-ce que il s'est passé quelque chose dans vos vies respectives entre du coup cette vingtaine d'années et le moment de votre rencontre qui se situe plutôt autour de la trentaine? Est-ce qu'il y a des choses dans votre parcours de vie sur lesquelles vous voudriez témoigner entre 20 et votre rencontre, 20 et 35, 36 là?
Moi, j'ai vécu mon adolescence, je me suis éclatée.
Toi, t'as été danser tous les soirs.
Voilà.
Tu m'as encore?
Ouais. Mais du coup, j'ai été dans une boulimie et tout. En fait, j'ai fait de la danse, j'ai appris des langues. Je suis partie au Japon, j'ai fait le tour du monde, j'ai travaillé dans des ONG, j'ai fait des trucs de malade.
Trop bien.
Et voilà, donc, comme quoi, même quand on pense qu'on va mourir à 30 ans, un jour, la porte, elle s'ouvre. Et là, on est libre. Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est que même des fois, si c'est difficile. Quand c'est le moment qu'il faut y aller, la vie... Et du coup, alors c'est bête de dire ça, mais le moindre sentiment de liberté... Genre, quand j'ai pris l'avion pour aller aux États-Unis, j'avais 20 ans. C'est la première fois. Je pleurais parce que je quittais ma mère, mais en même temps, j'avais dans mon ventre un truc de...
C'est une excitation.
C'est la première fois que je respirais, ouais. Quoi. Et là, mon année aux États-Unis, je suis restée un an, j'ai pris 12 kilos, 1 kilo par mois, parce que j'ai tout mangé, j'ai bouffé tout, j'ai fait du gospel, j'ai fait de la guitare, j'ai fait de la sculpture, j'ai tout fait ce que tu pouvais faire.
T'es partie faire quoi aux États-Unis, du coup,
aux États-Unis, je suis partie dans une université américaine pour être directrice de la maison française.
Okay.
Donc l'idée, c'était que j'avais des étudiants internationaux aussi, mais aussi américains, et je devais leur inculquer, entre guillemets, la culture française, la cuisine, leur apprendre le français. Et en échange de ce travail-là, j'avais tous les cours offerts.
Oh, trop bien.
Et la nourriture. Et donc la nourriture.
La nourriture, elle.
Et je suis rentrée, j'étais... j'avais 12 kilos de plus. Alors sur le coup, c'était dur parce que on ne me reconnaissait plus, mais ça m'a donné une maturité où quand j'allais aux entretiens, ils me disaient « celle-là, elle pèse ». C'est le cas de le dire.
Et puis du coup, c'est comme s'il y avait eu un changement qui s'était opéré dans cette nouvelle liberté, cette nouvelle vie, et un changement physique qui devient cohérent. C'est comme si tu deviens une autre, en fait.
J'étais une autre. Bon, après, j'ai galéré à reprendre mes kilos, mais parce que je rentrais plus dans rien. Mais bon, moi, ça a été important quand même, parce que du coup, si j'avais pas vécu tout ça, ça m'a aussi décalé aussi la possibilité de me mettre aussi en couple. Déjà, j'avais du mal à trouver la bonne personne. Mais comme j'ai commencé tard, je me voyais mal faire aussi un enfant à 22 ans, 23 ans, parce que j'avais rien vécu. Mon rêve, c'était d'aller en boîte à 22 ans. J'étais jamais allée en boîte, quoi, pratiquement. Librement, en tout cas, si j'avais été, c'était caché, c'était pénible. Et voilà. Donc, quand même, je pense que ça a joué aussi. Et c'est qu'en fait, quand on s'est rencontrés, j'avais vraiment fait tout ce que j'avais
c'est
à
bon,
faire.
C'est bon,
voilà.
grâce à Dieu, t'es encore là. On t'a placé tes 30 ans, mais par contre, t'as tout vécu avant tes 46. Voilà. Stress quoi, vive là. Encore des choses. Je t'ai vu tout à l'heure, tu voulais rebondir sur son propos quand elle parlait de justement cette liberté et ses voyages.
Ouais, moi, disons que la liberté, je l'avais, mais donc toute cette période-là, je dirais que jusqu'à 35 ans, c'est pareil, c'était une grande adolescence. Quand je suis parti de chez mes parents, je me suis installé avec mon meilleur pote, toujours à Fresnes. On avait un autre pote qui avait un studio dans le même immeuble. Et enfin c'était tous les jours on était chez nous avec tous mes potes, je faisais du rap, c'est une passion, on faisait du foot, enfin vie d'adolescent si tu veux, jusqu'à quasiment 35 ans. Donc moi j'avais eu une relation, on va dire, significative, pour peut-être introduire sur là-dessus, de 18 à 23 ans, une belle histoire d'amour avec fidélité, où tu penses que
ça y est, c'est parti.
Voilà. Puis bon, ça s'est fini très bien, progressivement. Et après, j'ai profité, quoi. En fait, j'avais pas. J'ai rarement été célibataire, mais je m'investissais pas forcément dans les relations. Voilà, je. j'avais voilà, j'ai profité de la vie, voilà, j'étais surtout la priorité, c'était mes potes et m'éclater et ma famille aussi qui était voilà, ce qui était là à côté et donc la vie de couple et faire des enfants, tout ça, c'est, je pense, j'étais pas du tout là-dedans quoi.
J'allais vous poser la question, peut-être avant d'arriver à votre rencontre, parce que du coup, vous dansez tous les deux, je crois.
Alors moi, j'adore danser, un peu moins, c'est plutôt le théâtre. Là,
qu'est-ce que tu appelais la planche tout à l'heure?
Ah oui, oui, c'est parce qu'en fait, on fait de l'improvisation théâtrale.
Ah, oui. Ah ok.
Oui, sur les planches.
Ah non, mais
le...
si tu me vois danser...
Ah mais
si
explique cela, parce qu'en fait, t'es super expressive, Emmanuel. Les auditeurs, ils te voient pas, mais ouais. En fait, tu dégages un truc, t'es super expressive, le théâtre.
Ouais, tout à fait, elle est ouais. Solaire. Donc ouais. Oui, l'improvisation théâtrale, on en faisait ouais. Chacun de notre côté. Et on s'est rencontrés dans une école à Paris. C'est-à-dire que ouais, ça aussi, c'est le hasard. Parce ouais. Que moi, j'en faisais dans ma banlieue. Voilà. Et un jour, je me suis dit, bon, bah, je veux aller dans une école un peu plus ambitieuse et tout. Et puis, c'était une période oui, où je venais de perdre ma mère. Enfin, j'étais dans une espèce de sas, en fait.
Avec quel âge, là ?
J'avais 36, 37.
Ok. Ouais.
Et donc, je me suis inscrit dans cette école et on n'était même pas dans le même cours. Mais un jour, on faisait un spectacle ensemble et au théâtre du gymnase,
ouais,
dont 200 personnes.
Ouais, et c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois.
Ouais.
Et en plus, on devait déjà jouer une fois, mais j'étais pas venue parce que j'étais un peu... Voilà, donc on a eu un rendez-vous raté une fois, on aurait pu se rencontrer, c'est pas rencontré. La deuxième fois, on joue devant 200 personnes. Je le vois sans le voir. Voilà, on se voit, enfin,
oui, on se voit, voilà, rien ne se passe de, ouais.
On a joué ensemble, quoi.
De ouf.
La semaine d'après, ce qui arrive jamais, parce qu'il y avait plus de 200 élèves dans l'école, ils nous rappellent, nous, et on rejoue ensemble. C'était dans un Pizza Hut, je me rappelle, sur les grands boulevards.
Ouais, Opéra, ouais.
Ouais, et donc, je sais plus, on se prépare, je lève les yeux et je te vois en train de te déshabiller. Bon, je dis, bah tiens, t'es là, boum, ouais, on joue, ça se passe bien. Et je crois que ce soir-là, tu me raccompagnes.
Oui, certainement.
Trop bien, on se rapproche naturellement voilà. À la rencontre. Allez.
Oui, tu vois, les transitions ouais, sont toutes trouvées.
Et c'était drôle parce qu'en fait, bon, c'était pas drôle. Non. Donc, tu me raccompagnes en voiture. Ouais. Non, mais bon, parce qu'il venait de perdre sa mère et il était encore dans cet état, un ouais. Peu dans sa bulle. Et je me rappelle qu'en un quart d'heure dans la voiture en bas de chez moi, j'habitais dans le 13e justement à côté. Et en un quart d'heure, j'ai plus d'échanges avec lui qu'avec le type avec qui j'étais à l'époque. Ça faisait 2 mois et j'essayais de me dire, ouais, c'est bon, fais un effort, ça va bien se passer. Et je vois qu'en fait, waouh, qu'est-ce qui se passe?
Il y a un feeling naturel.
Un feeling de malade. Et en 15 minutes, il se passe plus de choses qu'avec le type en 2 mois. Alors c'est dur, hein, mais donc là, je prends une claque et je me dis, bon, faut que je me recentre. Allons creuser, quoi.
Du coup, on creuse?
Bah, on a creusé, oui, effectivement.
Alors, on a rejoué ensemble une troisième fois.
Oui, tout à fait.
Et là,
bah, on avait chacun, effectivement, des relations de notre côté.
Ouais, fragiles.
Voilà, on va dire. Donc, bah, on y a mis un terme et puis on a
vous leur avez rendu service, genre, bon, vous ouais. Sortez du jeu.
Ils n'étaient pas très heureux, mais bon, il fallait à un moment donné. Mais ça s'est fait vite et assez naturellement, en fait. Hein.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu de.
Ouais.
Qui enclenche l'autre?
En fait, il vient chez moi, dans le 13e. On devait aller jouer ensuite justement au théâtre.
Bah, je t'ai amené chez moi avant.
Ah oui, il ne s'est rien passé.
Ouais. quand même, un soir, effectivement, c'était la deuxième ou troisième fois qu'on se voyait. Et elle est montée dans ma voiture et on a quitté Paris.
Ouais.
Et là,
on est parti en banlieue.
Ouais. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Après,
c'est un serial killer.
Ouais.
Bah, tu sais, quand j'étais femme seule et tout, j'ai voyagé, j'ai fait des trucs de malade.
T'avais pas peur en fait?
Non, mais en même temps, t'as l'instinct. Tu vas dire, ouais. Tu vois tout de suite si ça va pas le faire, ça le fait, ça le fait pas. Au pire, j'avais toutes mes techniques de l'époque où je pouvais toujours me débrouiller. En plus, c'était un endroit où il y avait pas trop de transport.
Ouais,
bref, donc voilà. Donc on arrive et on monte chez lui, on se met d'un bout à l'autre du canapé. Et puis bon, bah, on boit un coup. Et puis il me dit, bon, bah, je te ramène. Et je dis, waouh, cool.
Beau gosse.
Bah grave.
Il est pas mal.
Et du
en
coup,
fait.
Mais grave. Et puis ça fait monter tranquillement le truc. Il me ramène chez moi. Donc je sais pas, il était au moins 2h du matin. Il me repose chez moi. Et puis voilà, on se quitte comme ça. Et je me dis, un mec normal.
Ouais.
Charmant, ça se passe bien. Voilà, bon, bah. Donc voilà, on continue, on s'écrit. Et on se revoit la semaine d'après.
Chez toi cette fois.
Chez moi. Donc il vient dans mon petit appartement du 13e là. On est sur mon petit canapé. Je crois que je te dis, on a qu'à essayer. On s'embrasse, on va voir ce que ça fait.
Si ça match.
Ouais,
si
ça match. En fait, c'est toi qui l'a enclenché.
Ouais.
Et du coup, ça a matché.
Ouais. ça a matché.
Il semblerait, oui.
Bah ouais, parce que 10 ans après...
Du coup, à ce moment-là, du coup, ça match. Vous continuez à faire du théâtre ensemble pendant encore longtemps, jusqu'à aujourd'hui.
Ouais. Bon, on n'est plus dans l'école, mais là, on a monté des troupes.
On fait des choses de notre côté, mais aussi en commun. Donc,
Voilà. Trop bien.
Ouais.
Donc, en fait, ça part d'une passion.
Ouais.
On développe une autre passion.
Exactement.
C'est juste magnifique. À ce moment-là, du coup, ça y est, vous êtes en couple. Au bout de combien de temps vous commencez à vous dire, ça y est, c'est sérieux. Est-ce que vous le dites ou pas? Parce que du coup, toi, tu vivais un peu ta vie avec légèreté et tu t'investissais pas forcément dans tes relations.
Ouais.
Tu avais beaucoup de soirées à rattraper. Du coup, à quel moment on se dit, c'est sérieux? Est-ce que c'est tout de suite?
Ouais. Pour moi, c'était. Il n'y a jamais eu de réflexion, en fait. C'est-à-dire que. Toutes les relations que j'ai eues, à chaque fois, au bout d'un moment, les relations qui duraient un peu, je me disais, je réfléchissais. On me disait tout le temps une fameuse phrase, si tu réfléchis, c'est que c'est pas la bonne et tout. Et je finis par croire que c'est vrai parce qu'avec Emmanuel, alors il y avait peut-être l'âge aussi et la maturité. Mais voilà, ça a été évident pour moi dès le début et je me suis plus jamais posé de questions. Donc pour moi, on déroulait.
C'était ligne droite.
Ouais, mais sans y réfléchir.
Non, mais c'est vrai. Moi, c'est pareil. Toutes mes relations, c'était compliqué. Avec le recul, aujourd'hui, je m'aperçois que toutes les relations que j'avais lancées ou commencées ou initiées, c'était avec des personnes où ça n'avait pas d'avenir, finalement. Et quand on s'est rencontrés, tous les points communs, c'était l'évidence.
L'évidence évidente.
Ouais, l'évidence évidente. Mmh. Puis après, quand est-ce qu'on s'est dit que c'était sérieux? Assez rapidement. Parce que, il a fallu aussi qu'on s'adapte. Parce que moi, j'étais en effet dans un état un peu où je faisais 50 000 trucs à la fois. Mmh. J'avais l'esprit très, très.
T'étais super
réactive. Très éparpillée, ouais. J'étais super réactive. J'avais l'esprit en escalier et tout. Donc, il m'a calmée. Et lui, il était dans un état un peu dans sa bulle, là, où en fait... plus lente, mais surtout, il avait ce deuil de sa mère qu'il n'avait pas fait. Donc, ces deux états-là qu'il a fallu faire matcher, qui ont bien matché, finalement. Donc, moi, je me suis calmée. Et puis, Alex, il a commencé à se poser pour régler ce deuil, l'accepter et... pour pouvoir passer à autre chose, parce qu'on ne peut pas vivre dans une bulle en se disant, il ne s'est pas rien passé, ou je ne sais pas l'état dans lequel tu pouvais être.
Bulle tout seul, ce n'est pas la même chose que... C'est soit tu restes dans cette bulle et tu avances tout seul, mais en fait, l'autre, s'il ne rentre pas un peu dans cette bulle, le couple, c'est compliqué.
Oui, puis c'est une bulle à la fois protectrice, mais en même temps, c'est une prison, parce que c'est pas naturel quoi. Tu dois quand tu perds quelqu'un de cher comme ça, tu dois avoir une réaction. Tu peux pas. Je me rappelle que quand j'étais gamin, quand on avait des chats qui mouraient, je pleurais pas, je passais à autre chose rapidement. Alors c'est un animal, mais on avait souvent ces discussions avec ma mère, tu vois, qui elle pleurait pendant une semaine en me disant mais toi t'as pas de peine et tout. Mais en fait non, moi j'aimais pas le côté triste, je voulais pas m'attarder dessus.
Mais tu ressentais une tristesse?
Oui, je pense que je pense, mais vite fait.
Ouais.
Franchement, et pourtant j'étais attaché aux animaux, mais je relativise et je me dis allez, de toute façon faut aller de l'avant. Et je crois que j'ai fait la même chose avec ma mère, sauf que c'est pas un animal de compagnie, tu vois. Donc au bout d'un moment tu peux plus. Donc voilà, j'ai été rattrapé par ça, et comme le disait Emmanuel, il y a un moment où il faut que tu acceptes que t'en sors pas indemne, et que tu comprennes les plumes que tu as laissées, et que tu évolues aussi, que tu acceptes de changer, d'être une personne différente.
Avec un peu de recul aujourd'hui, est-ce que tu penses que cette réaction, elle n'est pas aussi due au fait de ton inconscient, il sait, lui, que ta mère, elle ne va pas bien. Et du coup, quand on sait que quelqu'un ne va pas bien, on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver et on crée des mécanismes de défense, en fait. Donc, est-ce que le fait de très tôt accueillir la mort d'un animal de compagnie qui est proche, en plus, que ça soit physiquement, il vient, un chat, ça fait des câlins, etc. Mais du coup, très tôt, c'est comme si... est-ce que c'est pas comme si c'est un exercice? Si je perds un chat, ça me fait rien. je perds deux chats, ça me fait rien. Et du coup, naturellement, au moment où je perds maman,
Non, mais c'est... Oui, c'est très pertinent ce que tu dis. Oui, c'est évident que tu te construis de cette manière-là et que, oui, ça peut être une manière de dire la tristesse, elle n'aura pas d'impact sur moi. Oui, c'est sûr que ça peut être une explication, en tout cas un début de construction, de refuser tout ce qui va venir t'impacter.
Est-ce que toi, du coup, Emmanuel aussi, à ce moment-là où on commence à se dire, ça y est, c'est sérieux, il n'y a plus de doute, faut que Alex, tu puisses un peu cheminer, en tout cas, pour qu'on trouve le bon équilibre pour vivre à deux ou en tout cas construire. Est-ce que toi aussi, tu fais ce travail-là à ce moment-là ou est-ce que toi, tu es encore dans cette phase de je vais sauver Alex, je vais m'occuper de lui, etc. Moi, ce n'est pas grave et je vais très bien. Ou est-ce que toi aussi, tu fais ce pas pour toi en te disant, ok, avant d'entrer dans la vie de couple, est-ce que...
Alors, honnêtement, à l'époque où on se rencontre, ouais, je pense que je suis dans mon état de sauveuse aussi.
Clairement.
Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'avec le recul, toutes les relations que j'ai pu avoir, j'ai toujours sauvé quelqu'un. Donc, en fait, j'ai sauvé quelqu'un, et puis ces gens, ils vont mieux aujourd'hui, donc c'est la plus belle chose pour moi, mais voilà. Mais derrière, donc je ne pense pas trop à moi à ce moment-là, et je me dis, c'est fou, hein, je ne sais pas si on se l'est déjà dit, mais quand je le vois dans cet état-là, je me dis, il va faire ce travail-là, on en a pour 10 ans. Je me le dis direct, parce que c'est long, c'est très long, et vu l'état où il était... Et la fermeture des émotions était tellement... il n'y avait aucune émotion qui sortait. C'était l'ombre de lui-même. Quoi. D'ailleurs, je lui disais, pour rigoler au début, quand on se rencontrait, quand je t'ai rencontré, t'étais tout gris. Il était pas un fantôme, mais il était gris, quoi, de teint. Et puis, au fur et à mesure, avec le temps, aujourd'hui, il est beau, il est bronzé.
Il est coloré.
Oui, il est coloré, voilà. Oui, je savais que ça allait être compliqué. Donc, après, on va en reparler, mais faire un enfant dans ces conditions-là aussi, c'est difficile aussi pour nous, pour le couple, pour lui. Enfin, ça a été ça, parce qu'il a fallu gérer à la fois ce deuil et d'aller mieux, parce que mine de rien, il allait bien sur le papier, mais il avait quand même des angoisses, des choses comme
oui,
ça.
Oui, en fait, si tu veux que tu as... En fait, comme par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la protection avec les chats, par exemple, moi, j'ai vécu toute ma vie avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ouais. C'est-à-dire, je me disais tout le temps, dans quel état je vais trouver ma mère en rentrant à la maison ? Elle prenait la voiture, donc elle a eu des accidents. Ouais. Donc, tu avais peur pour plein de raisons tout le temps. Donc, cette peur-là, moi, je ne la ressentais pas consciemment,
mais elle était
présente. Ouais. Donc, et puis, l'énervement aussi, quand tu rentres chez toi, que tu vois ta mère avec les petits yeux... Tu lui en veux, t'as envie de la secouer, donc t'as cette épée de Damoclès tout le temps. Après, il y a eu des périodes où elle a arrêté l'alcool et avant de mourir, ça faisait plusieurs années qu'elle ne buvait plus. Mais bon, les dégâts, au niveau des neurones et tout ça, c'est important. Donc, c'est plus la même personne. Donc, t'as des rapports très légers avec elle. Et donc, quand elle décède, en fait, ton épée de Damoclès, elle est tombée.
Elle est tombée.
Donc, du coup, en fait, t'es dans une nouvelle façon de vivre dont t'as pas l'habitude parce que t'as plus cette menace. Donc, en fait, tu vas aller chercher d'autres menaces et tu vas rentrer dans un état... qui n'est plus objectif, c'est-à-dire que justement les émotions elles sont déréglées, c'est-à-dire que tu as refusé cette tristesse, et du coup ça va te créer d'autres émotions démesurées pour des choses qui ne le mériteraient même pas. Et voilà, et après tu rentres là-dedans et il faut en prendre conscience et après il faut essayer d'y remédier. Donc c'est vrai, quand on s'est rencontrés, j'étais au début de ce truc-là, donc je dirais qu'on est tous les deux en fait des sauveurs parce que moi c'était un peu ça aussi avec ma mère, ma première petite amie, elle était à fond dans le cannabis, les extas, tout ça et elle a arrêté. Je l'ai sauvée entre guillemets et j'avais aussi tout le temps cette posture là avec mes relations. Et sauf que là je suis arrivé dans un état où je pense que j'étais plus capable de le faire parce que j'étais rincé. Et Emmanuel, elle avait toujours ce côté-là. Et dans le début de notre relation, c'était clairement ça. C'était la sauveuse. Et moi, ça me changeait de mes relations d'habitude.
Ça a inversé les rôles.
Oui, ça a inversé les rôles. Et puis, je pense que j'étais de toute façon... je ne sais pas si j'étais capable d'être un sauveur aussi ou pas, mais la posture d'Emmanuel fait qu'elle, c'est comme s'il n'y avait rien à sauver au début. En fait, c'est tout va bien.
Il faut creuser.
Comme tu dis, c'est quelqu'un très souriant, très solaire et tout, et tu peux dire que tout va bien. Donc ça peut, voilà, ça, le début de notre relation était quand même dans cette posture-là.
Merci à vous deux, merci d'être venus, d'avoir témoigné. J'espère que les auditeurs qui nous écoutent auront trouvé aussi peut-être des questions ou en tout cas des sujets, des pistes pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Merci à Mon Paris FM de nous suivre. On est disponible aussi sur les plateformes de téléchargement. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine, les amis.
Avec plaisir.
Oui, avec plaisir.
Salut. Merci.
Salut.